14h-15h le samedi, kiosque Cynthia Isarelli.
Bonjour, vous tombez bien, aujourd'hui on ne tient pas en place. Tandis que le thermomètre explose et fait fleurir nos envies d'ailleurs, eh bien les artistes, qui ont toujours un train d'avance, sont déjà sur le quai. Direction l'été et ses festivals. C'est le cas notamment de la compagnie Biloxi 48, qui embarque dans une tournée d'été qui les mènera de Stavelot à Avignon, avec dans leur valise trois créations. Du joyeux, de l'émouvant, du confrontant. Et toujours cette question, comment fait-on pour vivre ensemble et s'aimer un peu, nous qui sommes si différents? Festine Delmotte Weber sera notre invitée dans un instant. L'été du théâtre, c'est aussi la transhumance annuelle des compagnies du monde entier vers la ville d'Avignon et son festival. Des milliers de spectacles, des centaines de milliers de visiteurs professionnels ou amateurs. Et au milieu de cette cohue humaine et artistique, le théâtre belge a son refuge et son phare, le Théâtre des Dons, vitrine permanente des artistes de scène belge en France et particulièrement pendant le festival. Visite guidée de choix avant l'arrivée des foules, ce sera également dans cette émission en compagnie de Sandrine Bergot, la directrice du Théâtre des Dons. Et accoudé au bar du kiosque aujourd'hui, il y a Cédric Wautier, bonjour.
Enfin pour une fois que je vous emmène en balade.
Mais c'est vrai en plus, vous êtes baladé cette semaine.
Dans la plus belle ville du monde.
Oui.
C'est Namur.
Ah bah oui, bah c'est vous qui le dites et je vous laisse le dire.
Mais c'est parce que je suis né là-bas.
Mais je sais, ouais, là-bas, ouais. Tout est neuf et tout est sauvage. On ira voir cette balade enfin, avec
grande
vous.
Grande forme.
Merci à Jean Boulet et Simon de Boucher qui ont préparé et réalisé cette émission. Et puis merci à vous d'être avec nous. Le kiosque est ouvert et vous l'avez compris, il a la bougeotte. Depuis 1987, la compagnie Biloxi 48 s'est investie dans de nombreuses mises en scène, mises en espace, adaptations, écritures, ateliers, enseignements, débats, n'en jetez plus, la cour est pleine. Avec un intérêt spécifique pour le théâtre contemporain, le théâtre d'aujourd'hui, les faits de société, les débats d'idées, le texte toujours. Et puis cette question en filigrane, comment fait-on pour vivre ensemble, un théâtre qui prend la route aujourd'hui vers l'été et ses festivals. Bonjour Christine Delmotte Weber.
Bonjour.
Et bienvenue. Donc j'ai bien compté, 38 ans, 1987. Vous êtes metteuse en scène, autrice, réalisatrice, vous dirigez la compagnie depuis sa création. Plus de 50 spectacles à votre actif. Alors il y a eu Transit à Dresde, je crois que c'était le tout premier. Et il y a eu le plus récent qui était Je voudrais mourir par curiosité, dont on va reparler dans un instant. Entre les deux, en vrac, j'ai absolument pas pu être exhaustive. Je vais citer Kiki l'Indien, Les aventures de Catherine Crachat, qui a tuer Amy Winehouse ou encore Le sabotage amoureux d'après Amélie Nothomb et Mon petit chouchou Antigone de Beauchaud. Alors ce qui surprend quand on déroule la liste de la compagnie, c'est à la fois la diversité d'intérêts, la diversité de tons et en même temps on voit une certaine cohérence qui se déroule sur le temps long. Alors pour celles et ceux qui en 38 ans seraient passés complètement à côté de Biloxi 48, ça arrive, c'est quoi l'ADN de cette compagnie aujourd'hui ?
L'ADN de cette compagnie, c'est, je pense, l'intérêt énorme que j'ai pour différentes thématiques qui tournent souvent autour de la spiritualité et souvent autour du monde féminin. Voilà, y a vraiment deux aspects importants. Je dirais la spiritualité, ça va toucher par exemple un texte que je suis en train d'écrire pour le moment. C'est vraiment mon écriture de l'instant autour de la transe, la TCI, la transe cognitive auto-induite proposée par Corinne Sombrin où je fais une formation et où je suis vraiment plongée dans cette écriture qui touche à la spiritualité entre autres, quoi, autour de la transe. Mmh. Et ça touche aussi des spectacles comme qui vont aller à Stavelot, au festival de Stavelot, Je voudrais mourir par curiosité.
Oui.
On est tout le temps entre les deux, entre le monde féminin, ou le féminisme, et la spiritualité.
Ce qui est rigolo, c'est qu'à 38 ans, il y a 38 ans de cela, les questions féministes, elles n'étaient pas vraiment au devant de la scène. En tout cas, au théâtre, c'était rare de se poser vraiment pendant 1h30 et de réfléchir à, entre guillemets, avec d'énormes guillemets, la condition de la femme.
Oui, franchement, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à l'INSAS, je faisais partie des très rares femmes qui ont commencé à travailler. Et je pense qu'il y avait des précurseuses. Il y avait Martine Weikart, il y avait Isabelle Pousseur, qui sont un peu plus âgées que moi. Voilà, qui étaient les personnes que je voyais plus âgées que moi. Et je me disais, tiens, quand même, des femmes ont accès à cette profession-là, ont accès au fait d'être metteuse en scène, autrice pour certaines d'entre elles. Mais c'était rare, quoi.
Mais accès à la réflexion autour de cette thématique.
Alors, la réflexion, je dirais, jusqu'au mouvement MeToo, pour vous dire quelque chose que vous savez certainement, n'existait absolument pas, la réflexion. Je suis professeure au conservatoire depuis très longtemps. C'était même, pour beaucoup, les jeunes comme les plus âgés, le mot féministe était une insulte.
Oui.
Quasiment. Et puis, MeToo a tout renversé. Tout. Moi, j'en ai pleuré, vraiment, j'en pleurais de voir que cette lutte que j'avais essayé de conduire, personnellement en tout cas, et dans différents des textes, au travers de longues années, brusquement n'était plus une insulte. Féministe n'était plus une insulte. GUI n'était plus une insulte. LGBTQI n'était plus une insulte. Et brusquement, ça devenait quelque chose de positif qu'on pouvait proclamer, qu'on pouvait mettre en valeur. Ouais. Mais ça, c'est grâce au mouvement MeToo, c'est tout nouveau.
Mais ça, du coup, ça devance ma question suivante, qui était la réception, l'intérêt du public pour ces textes forts, ces réflexions que vous avez amenées déjà très très tôt dans votre parcours de création. Je vais en reciter quelques-uns, mais que ce soit « Cinq filles couleur pêche » ou « Je me tiens devant toi nu », un texte de Joyce Carol Oates, on est dans des textes assez pointus, des textes qui aujourd'hui suscitent l'intérêt, et suscitent même l'intérêt au sens très très large, vu que les questions féministes sont d'intérêt public, d'intérêt général aujourd'hui, et sont même passées dans la pop culture. Donc il y a une digestion finalement d'une matière assez complexe qui s'est faite et qui la rend plus abordable. J'imagine qu'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'était absolument pas le cas. Comment était reçu le propos ?
C'est-à-dire que, comme je viens d'expliquer, comme on n'était pas si nombreuses que ça, mais on existait quand même, c'était plutôt bien reçu au niveau de la possibilité d'en parler, parce qu'on faisait partie, je dirais, dans différents théâtres, de la petite minorité qui était différente. Il y avait certaines femmes dans les théâtres, il y avait un petit peu de diversité, je dirais. Je faisais partie de la diversité.
Ça faisait bien.
Mais ça change aujourd'hui, le public. J'imagine que, il y a 30 ans, on prêchait peut-être des convaincus. Aujourd'hui, il y a un public plus large qui vient s'intéresser spontanément à ces thématiques quand vous proposez une nouvelle pièce.
Donc, de nouveau, maintenant, c'est devenu plus commun d'en parler. Il y a beaucoup de spectacles qui parlent de ça. Ce sont des avis qui sont en discussion, qui sont en tout cas maintenant, dans la plupart des théâtres, ils sont proposés, ces thématiques. Donc ça me paraît tout à fait bien. Et moi, je ne sais plus la question, tenez, voilà. Ça,
c'est un public plus large aujourd'hui, qui vient pas forcément un public déjà éduqué aux questions féministes ou aux questions de réflexion sur la spiritualité, le soi. Est-ce qu'on a un public peut-être simplement curieux, qui a vu des choses sur Internet, dans le journal, à la télévision, et qui repère un mot-clé et qui vient spontanément voir un spectacle?
Oui, je pense que oui, il y a vraiment maintenant un public nombreux qui s'interroge, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui sont vraiment conscients de ces problématiques-là, qui sont ouverts à ça, oui, vraiment très très fort, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 20 ans.
Mais il y a aussi un public depuis quelques temps qui dit ras-le-bol d'avoir dans tous les théâtres 2-3 spectacles qui ne parlent que de ça par saison. À un moment, parlons du nous et revenons sur ce qui rassemble plutôt que ce qui divise.
Ce n'est pas faux. Oui, moi, bon, je ne programme pas les spectacles, moi. Je ne suis pas directrice de théâtre, donc je fais ma compagnie de théâtre avec des thématiques où je ne me sens pas, je dirais, être dans cette partie, justement, qui est trop, peut-être, maintenant, que vous soulignez, qui est constamment dans cette problématique-là. J'ai écrit un texte il y a plusieurs années qui s'appelle « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler », qui a pas mal tourné. Mais c'était avant le mouvement MeToo, donc j'ai écrit ce texte parce que, me semble-t-il, à cette époque-là, avant MeToo, excessivement peu de gens parlaient de ça. Mmh. Bon, les féministes entraient évidemment, mais excessivement peu de gens dans les théâtres. Et donc ça a tourné, puis MeToo est arrivé, et ça a un peu moins tourné après. Parce qu'effectivement, ça s'est multiplié, la thématique s'est multipliée, et mais heureusement d'une certaine manière. Mais voilà, il y a toujours des balances à faire entre le trop peu.
Ouais. Il n'y a pas d'amertume de votre côté sur le fait qu'une pièce précurseuse ne soit pas dans la fenêtre de pertinence qui fasse qu'on ait envie de la faire tourner plus longtemps?
Je pense qu'elle était dans la fenêtre de pertinence il y a 10-15 ans, quand je l'ai créée. Mais que maintenant, il manque toute une série d'éléments. Puisque ça a été écrit avant MeToo, il manque toute l'analyse d'après MeToo. Et donc c'est un très bon spectacle d'analyse des mouvements féministes avant MeToo. On va dans différents endroits du monde, on parle des fémènes, on parle des suffragettes, on parle de différentes choses, de l'auto-examen gynécologique en France. Mais avant 2012, maintenant je pense qu'il y a des spectacles plus pertinents que cela.
Ouais. C'est le risque quand on s'intéresse à des sujets qui sont en prise directe avec le temps, avec le réel. On a parfois l'impression que vous flânez dans une bibliothèque, vous tombez sur un sujet qui vous passionne, vous vous documentez énormément à l'instant T, et puis ça fait spectacle, mais c'est un spectacle qui a quelque part une date de péremption finalement, vu que la recherche évolue, les philosophies évoluent. Donc c'est un risque de se dire je fais un spectacle à l'instant T, mais peut-être qu'à un moment il ne sera plus en phase avec ce qu'on sait de ce sujet, avec ce qu'on pense de ce sujet, et vous le laissez tel quel.
Oui, mais oui, tout à fait. Il y a le spectacle La cabane d'Alexandra Kollontai, on va jouer à Avignon cet été, 3 semaines, qui parle du polyamour. Mm-hmm. Polyamour est une thématique qui me passionne. Je trouve important dans nos rapports amoureux, dans nos manières de vivre, nos relations, dans ce que nous pensons être nous-mêmes, être notre rapport aux autres, etc. Je trouve ça passionnant. Mais c'est une nouvelle thématique qui, je pense, va fleurir parce que nos rapports changent, nos rapports amoureux changent. Mais bon, je l'ai écrit aussi il y a 2 ans, donc j'imagine que dans 10 ans, si beaucoup de gens deviennent polyamoureux et que la réflexion est acceptée par la société, est prise en compte par la société, si les livres parlant réellement du polyamour sont lus, sont distribués, bah, dans 10 ans, ce ne sera plus le même texte. Quoi. Mmh. Ce sera plus, voilà. Et je l'espère d'ailleurs, puisque je m'intéresse à ce sujet-là, je dirais d'une certaine manière, pour le promouvoir, pour faire en sorte que je puisse réfléchir avec les spectateurs, les spectatrices qui viennent voir. Quoi.
On a justement un extrait de ce spectacle.
Alix, tu te fous de moi ?
Mais pas du tout !
C'est définitivement pas pour moi.
Mais je pensais que tu adhérais.
Mais personne n'a la disposition physique et psychique pour vivre bien avec plusieurs personnes à la fois.
Mais tu le vis avec Samuel et avec moi.
Mais c'est différent, j'ai pas choisi de me l'imposer.
Quoi, t'es avec moi juste pour faire plaisir à Samuel?
Bah et toi tu veux juste du sexe?
Un petit extrait donc, mais où on comprend déjà toute la complexité de la situation. C'est l'histoire d'Alix qui rencontre Julia, qui tombe amoureuse de cette jeune femme, tandis qu'elle-même est déjà en couple avec Samuel, qui lui est polyamoureux. De là s'enchaîne toute une réflexion sur c'est quoi le polyamour, comment on coexiste entre ces différentes relations. Tout ça entremêlé avec des réflexions et des scénettes issues de la vie d'Alexandra Kollontai, femme politique socialiste, communiste, militante féministe russe, qu'on a sans doute un peu oubliée et que vous remettez là sur le devant de la scène. Alors on le sent là aussi, il y a beaucoup d'influences littéraires, il y a beaucoup de documentation, il y a un texte qui se trame. Pourquoi cette pièce-là ? Pourquoi avoir envie de partir en tournée cet été avec celle-là particulièrement ?
Cette pièce donc, a été créée en janvier 2023 au Théâtre des Martyrs. Et puis on était joué au Festival de Spa directement. Et puis on n'a plus eu l'occasion de la faire tourner. Et je pense que c'est vraiment une thématique qui a, au moment où on a joué à Bruxelles au Théâtre des Martyrs, a passionné beaucoup de jeunes gens. Mmh. Les jeunes gens sont vraiment venus en masse. Je pense qu'il y a à Bruxelles pas mal de polyamoureux dans les jeunes entre 20 et 30 ans. C'est vraiment une thématique que je sens forte, puissante, qu'ils ont envie de partager. Donc j'étais même étonnée de la masse de spectateurs venant voir ça. Et je me suis dit que pour Avignon, c'était une bonne chose. C'était un spectacle qui pouvait tourner en France. Voilà. Et donc on espère, évidemment, en allant jouer à Avignon, atteindre des tournées en dehors de la Belgique. Mmh. C'est par la force de la thématique. Mmh. J'ai déjà été à Avignon avec les petites filles des sorcières aussi, et ça avait très bien fonctionné parce que c'était autour du féminisme, et à l'époque, c'était, comme on le disait, pas si connu que ça. Quoi. Ouais. C'était, voilà.
C'est assez étonnant chez vous, hein, Christine, ce côté précurseur, ce côté, tiens, je vais souffler un peu sur la poussière autour de thématiques comme, par exemple, les états de conscience modifiés, ce qui se passe après la mort, etc. On sait qu'il y a des recherches en Belgique, mais on en parle très très peu. Et vous allez gratouiller un petit peu, vous allez voir tout ce qui se passe, les états scientifique en vous disant mais pourquoi ne pas s'intéresser à ce genre de thématique. C'est une vraie volonté de vous dire à un moment le monde tel qu'il est, les connaissances telles qu'elles sont ne sont pas suffisantes, il y a d'autres espaces peut-être à explorer.
Oui, vous venez très bien de le résumer. Pour écrire un texte de théâtre, et j'en ai écrit un certain nombre, il faut passer vraiment de nombreuses années dessus, je dirais minimum 3 ans. Vraiment, pour lire la matière, pour se questionner, pour savoir quelle histoire on va écrire à partir de ça. Et pour s'y intéresser 3 ans, il faut vraiment la matière passionne. Donc, en ce sens-là, je ne prends que des matières qui me semblent, enfin, qui me passionneraient. Je dirais que je ne sais pas si elles passionneront les autres, mais j'essaie quand même de faire en sorte que ça puisse rencontrer un grand public. Mais c'est la durée aussi qui demande cette passion de mon côté de ça. Et c'est vrai que la transe, le prochain sujet, est un sujet, on parle beaucoup des psychédéliques maintenant, on parle beaucoup de la manière des états, au niveau des psys, la manière dont les états non ordinaires de conscience vont faire avancer peut-être la psychiatrie actuellement, vont faire avancer l'oncologie dans ses symptômes d'après, etc. etc. quoi, voilà.
Avec des programmes très concrets en Belgique, en Suisse ou en France, entre autres.
Ouais. Oui, c'est ça, dont Liège, effectivement, mm-hmm. qui est précurseur, avec le Giga Consciousness et Charlotte Martial, qui va d'ailleurs venir, Charlotte, parce qu'elle s'intéresse aussi aux états non ordinaires de conscience via les EMI. Et donc, elle sera aussi à Stavelot cet été, le 11 juillet.
Cette approche documentaire, voire presque anthropologique, elle amène un résultat assez étonnant dans votre écriture. C'est que vous venez toujours nous chercher par la tangente, finalement. Je prends l'exemple du polyamour. Alors, ce n'est pas un sujet dont on a l'habitude de parler au théâtre. En tout cas, pas en dehors des codes très, très éculés du vaudeville, par exemple, ou de la comédie de boulevard, où le polyamour va être traité sous forme d'un adultère et d'un ressort comique assez utile. Ici, vous allez traiter toute la complexité, toute la nuance, quelque chose qu'on commence à voir dans la Nouvelle Garde, plutôt du roman graphique ou du cinéma. Donc, c'est à la fois un temps long, mais en même temps, ça vous permet d'être toujours, comme le disait Cédric, à l'avant-garde, quitte à être un petit peu en avance par rapport au sujet. Même chose avec « Je voudrais mourir par curiosité », spectacle qui, lui, a été créé cette année, en janvier 2025, et qui nous parle des expériences de mort imminente.
Te voilà une expérienceuse, comme elle dit. Et parce que je veux te retrouver.
À la question « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?», vous répondez « Tout ce que je peux imaginer est réel. »
Oui, parce que je compare avec ma réalité quotidienne. Baba est là. souvent.
Baba est là, c'est-à-dire ?
C'est une pièce à la fois très frontale, très intérieure. Vous mélangez là aussi du documentaire, il y a des extraits d'interviews radio, il y a du jeu de scène évidemment. On est à la toute extrême limite parfois avec la science-fiction. Forcément, on n'en dira pas beaucoup, mais c'est l'histoire effectivement d'une femme qui a vécu une expérience de mort imminente suite à un accident et qui s'intéresse à cela parce qu'elle a perdu sa compagne dans cet accident. On est dans des sujets très documentaires, on est dans des sujets très contemporains, Cédric le disait, il y a des recherches là-dessus, on est dans quelque chose de profondément scientifique. Cependant, quand on revient à la trame, finalement, j'ai l'impression que vous réussissez toujours à toucher à l'universel. Le polyamour, bah, c'est l'amour, et comment on se fait aimer des autres, bah, la mort, c'est ce qui nous attend tous et toutes au bout du chemin, et comment se réconcilier avec ça et avec un possible après. Finalement, quoi qu'on cherche, on en revient toujours à ces quelques thèmes universel.
Oui, c'est aussi une grosse partie du travail, c'est de savoir quelle thématique m'intéresse via les ressentis que j'ai. Dans le polyamour, je ressens que je suis une polyamoureuse virtuellement. Je ne dis pas que je le vis, loin de là, mais virtuellement, je sens qu'il y a une possibilité. Et donc, je m'interroge sur moi-même, donc je m'intéresse aussi sur cette thématique-là. Et là, un paramètre très important, c'est le grand public. J'ai vraiment une grande volonté de faire en sorte que ce soit des thématiques qui soient, racontées pour le grand public. C'est vraiment extrêmement important pour moi.
Vous faites le boulot, finalement, pour le public.
Vraiment, c'est vraiment très important.
Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les spectateurs et spectatrices qui viennent vous voir ne sont pas des spectateurs ou spectatrices, en tout cas lors de certaines représentations, qui pourraient avoir 20, 25 ans, qui vivent là-dedans, qui vivent ce polyamour, qui vivent cette réflexion. Non, vous avez un public parfois beaucoup plus âgé aussi, qui s'interroge. Et vous allez vraiment bousculer des certitudes. Moi, je l'ai entendu à la sortie de ce spectacle, hein, Je voudrais mourir par curiosité. Il y avait énormément de dames, d'hommes qui parlaient entre eux, qui étaient complètement perturbés.
C'est ça, oui. C'est à partir de « Je voudrais mourir par curiosité », c'est vrai que c'est le dialogue entre une femme, jouée par Marie-Paul Kums, et sa compagne, Stéphane Bissot, qui est morte. Mmh. Et bon, de nouveau, c'est des choses qui, dans le ressenti, moi je l'ai vécu via mon père, qui à la mort de ma mère a passé les 3 dernières années de sa vie à parler avec ma mère. Elle était morte. Et il me racontait, il me disait, bah, aujourd'hui elle va bien, ça se passe bien. Et puis aujourd'hui, comment est-ce qu'elle va, maman? Bah, aujourd'hui, c'est moi, on s'est un peu disputé, mais beaucoup moins qu'avant. Hein. Voilà, il y a une série de répliques du spectacle qui viennent de ça, et qui viennent, je pense, de ce que beaucoup de gens vivent réellement, qui est suite, voilà, un manque, un décès, après quelque chose de fusionnel, d'important. Et qui parlent avec leur mort. Donc je pense que beaucoup de gens le vivent. Et moi, simplement, je l'ai mis sur le plateau en disant, mais si c'est vécu intérieurement, c'est que c'est vrai, d'une certaine manière. Dans un certain niveau de réalité, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Il n'y a pas que notre réalité qui est vraie. Il y en a des tas d'autres. On vit tous dans des tas de différentes réalités. Et celui-là me paraît tout aussi vrai qu'un autre, personnellement. J'avais fait un autre spectacle qui s'appelait « Ceci n'est pas un rêve » où je racontais que le rêve était un état que je vis, moi, comme étant vrai, potentiellement vrai. Donc j'ai des relations amoureuses dans mes rêves, par exemple, qui ne sont pas là dans la réalité, mais qui sont très bien aussi, potentiellement. Donc, voilà. Et donc, le fait d'amener ça comme vrai, alors que beaucoup de gens le vivent peut-être en secret ou honteusement, fait que, voilà, ça a étonné, quoi. Mmh.
Et, troisième spectacle, on n'aura pas le temps de s'étendre très longuement dessus, malheureusement, mais avec lequel que vous emmenez dans vos valises, en tout cas, c'est Le Travesti et sa femme, Safia Marchand de Wildside. Là aussi, sujet complètement oublié, quand bien même on est à fond dans ces thématiques-là aujourd'hui, c'est le sujet du cross-dressing, c'est-à-dire les travestis hétérosexuels qui sont finalement aussi une forme de marginalisation, qui ont été un petit peu oubliés ou en tout cas qui n'apparaissent pas clairement dans tout le débat aujourd'hui élargi sur le débat de genre ou sur le drag ou sur les droits de la communauté LGBTQIA+. C'est un spectacle assez drôle, assez sensible qui fonctionne en dialogue aussi. Ce sont 3 textes, on le rappelle, que vous avez écrits de bout en bout. Donc là, on n'est pas sur des adaptations, ce sont vraiment des créations qui sont signées par la compagnie. Il y a là aussi une forme de fil rouge si on prend ces 3 spectacles, le cross-dressing, le polyamour, l'expérience de mort imminente, ça faisait sens de partir sur les routes cet été avec ces 3-là.
Oui, oui. Le Travesti et sa femme n'a pas encore été créé complètement dans sa forme définitive. Mm-hmm. Ce n'est d'ailleurs pas encore édité. Les autres textes dont on a parlé sont édités aux Oiseaux de Nuit, la maison édition de belge des textes de théâtre. Les Oiseaux de Nuit, c'est vraiment une belle maison d'édition. Celui-là n'est pas encore parce que la fin de film n'est pas encore là. Donc à Avignon, on propose une lecture spectacle. Mm-hmm. C'est 2 soirs, le 14 et le 21, dans les lundis belges, au théâtre Épicène. Et donc, ce serait une lecture-spectacle avec Robin Bonenfant, Jérémy Pétrus et moi-même. Pour faire avancer le texte, je sens qu'il n'est pas encore terminé, qu'il y a encore du travail à faire dessus. Je me réjouis d'avoir des retours après ces lectures-spectacles, comme j'ai déjà eu. Voilà, c'est une autre forme pour faire avancer un texte et sa thématique, quoi. Mmh.
Alors, je sais que vous n'aimez pas les anniversaires, Christine Delmotte Weber, mais néanmoins, la compagnie, elle a traversé les années, les territoires, les évolutions, tout en réussissant à jamais se perdre, à toujours se réinventer. Quand vous regardez le chemin parcouru jusqu'ici, qu'est-ce qui vous frappe le plus et c'est quoi la prochaine envie pour la suite?
D'abord, je vous remercie pour cette analyse. Je ne suis pas sûre que je la ferai moi-même. J'ai l'impression d'être perdue à différents moments, mais bon, en soit, c'est pas grave. Mais je vous remercie pour l'analyse. Alors, la suite, c'est vraiment la volonté de trouver encore des thématiques qui me passionnent et que je puisse raconter. Donc, celle dont j'ai déjà parlé autour de la TCAI, la transcognitive auto-induite, ça on sait. Mais il y en a d'autres aussi autour de la spiritualité que je sens qui m'intéresserait, voilà. Je ne sais pas encore. Je dois dire que je suis maintenant sur ces quelques projets dont on vient de parler et la transe. La suite, je ne sais pas encore. Mais je sais que j'ai encore quelques pièces à écrire. Ça, c'est sûr. L'envie, en tout cas, et le désir est là, clairement.
L'envie d'avoir envie, pour citer un grand philosophe de ce siècle. Voilà. En tout cas, ne ratez pas, si vous êtes sur les routes de France cet été, la cabane d'Alexandra Kollontai et la lecture-spectacle du travesti et sa femme, Safia Marchand de Wild Side. Ça se passera entre le 5 et le 26 juillet au Théâtre Épicène à Avignon. Et puis, beaucoup plus près de chez nous, si vous passez au Festival Vacances Théâtre de Stavelot, ne manquez surtout pas ce bijou qu'est Je voudrais mourir par curiosité avec sur scène Marie-Paul Kums et Stéphane Bissot. Ça se passera le 11 juillet prochain sous le chapiteau du festival. Merci beaucoup, Christine Delmotte Weber.
Merci à vous.
Et bel été.
Merci, vous aussi.
Kiosque sur la première.
Et tout de suite, on part en balade avec Cédric Wautier.
Oui, on part à Namur, candidate capitale culturelle européenne en 2030, avec deux autres villes belges que je ne citerai pas puisque j'ai fait mon choix. Ce sera Namur qui sera capitale culturelle européenne en 2030. Une visite si capitale, c'est le titre de ce spectacle Promenade, qui est écrit, mis en scène par Bruno Bellevaux. C'est une habitude à Namur d'avoir comme ça, chaque année, des balades. Le principe est simple, ça a été initié par Nicolas Beuys et la compagnie Victor Bay, il y a un peu plus de 15 ans de cela. On est, nous, public, spectateur d'une balade. On a un casque sur les oreilles. On est donc en relation avec le comédien qui nous raconte une histoire et qui interagit parfois avec les passants qui passent à côté de nous. On est donc dans une bulle. Et ici, le principe, c'est que nous, spectateurs et spectatrices, on est, si vous voulez, le comité européen de sélection des villes. Et le principe, c'est que le bourgmestre et ses deux acolytes vont nous emmener en balade pour montrer toutes les plus jolies façades de cette magnifique ville de Namur.
Voilà, ça c'est un groupe qui s'autogère, qui s'autoresponsabilise, et ça aussi Namur. Je vois beaucoup de délégations différentes, je vois les Italiens que je reconnais là-bas derrière, Buena Sierra, Nevada, les Espagnols aussi, Buenas Noches. Je vois les Luxembourgeois ici devant, plus austères.
Voilà, le ton est donné, c'est le ton de Bruno Bellevaux. On n'est pas dans un spectacle très sérieux, quoique, parce qu'on va partir réellement en balade. On va évidemment aller découvrir l'église Saint-Loup, qui pour Victor Hugo était la plus belle église baroque du monde. C'est là qu'il s'est passé plein de choses, avec certains poètes bien connus. Et puis on va rentrer dans le palais provincial, on va rentrer dans des lieux aussi qui sont... qui sont pas habituellement ouverts au public, qu'on connaît. On va pouvoir découvrir la citadelle sous un autre point de vue depuis le jardin des poètes à l'arrière de la maison des poètes. Et puis, tout au long de ce parcours, on va se retrouver aussi avec les deux acolytes, l'un qui rêve d'un musée d'art contemporain à Namur, et puis l'autre qui est plutôt attaché à une culture différente. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais ce qui est très intéressant, c'est que derrière Bruno Bellevaux, c'est vraiment renseigné sur ce qui s'est passé à Namur. Et comme tout bon Namurois et comme tout bon Belge ou francophone, on n'est pas suffisamment fier de sa ville. Et j'ai découvert pas mal de choses. Et je pense que toute personne qui va suivre cette visite va découvrir des anecdotes, des noms célèbres qui, à un moment ou à un autre, se sont posés à Namur. On écoute Bruno Bellevaux.
Victor Hugo venait souvent à Saint-Loup et il prend Saint-Loup dans Les Misérables pour faire l'enterrement de Cosette, quoi. Et dedans, il dit Saint-Loup, la plus belle église baroque du nord de l'Europe, c'est pour ça qu'on cite un extrait de lui. Mais il y a aussi le peintre Turner qui a peint la Meuse entre ici et Dinan. Il y a des tas d'exemples, Chateaubriand, il y a des tas d'exemples de gens, Rimbaud, qui ont parlé. Ouais, c'était marrant parce que Rimbaud, c'était, il y avait une ligne de chemin de fer qui venait jusque Givet, de là, il montait sur Philippeville et Walcourt. Donc, c'est rigolo de penser qu'il voyait les paysages de l'endroit où j'étais à l'école, tu vois, des exemples comme ça. Mais c'est ça qui est attachant, c'est que quand on rentre dans le détail de l'histoire d'une ville comme ça, ben on trouve gravés sur les pierres des grands noms qui y sont cachés, et ça c'est bien gai.
Et on les a oubliés ou pas suffisamment cités, ces grands noms?
Mais c'est marrant parce qu'à un moment donné, moi je suis resté ici pendant 30 ans à Namur, on ne m'a jamais parlé, mais personne. Or j'ai été directeur adjoint de la Maison de la Culture, je n'ai jamais entendu parler d'Evelyne Axel. Et puis tout à coup, je ne sais pas pourquoi, comment, il y a 8 ou 9 ans, il y a une œuvre d'Evelyne Axel qui a fait 250 000 dollars dans une vente à Philadelphie, et tout à coup ça a été Evelyne Axel. Baf. Alors il y avait des gens qui connaissaient évidemment, et il y avait des gens dont c'est le métier qui connaissaient très bien Evelyne Axel, mais c'était pas un phénomène populaire. Maintenant je connais des gens qui traquent les brocantes, qui traquent tout en cherchant des trucs d'Evelyne Axel. Et on dit c'est l'équivalent de Roy Lichtenstein, de Warhol, c'est l'icône du pop art européen. Voilà, elle est de Namur, mais alors là, vous pouvez traverser Namur et demander qui est Evelyne Axel. Il n'y a strictement personne qui croit et qui sait qui c'est.
Voilà, ce passé glorieux qu'il faut sans cesse remuer pour pas qu'il tombe dans l'oubli. Mais qu'est-ce que ça a de plus qu'une simple visite guidée, finalement, Cédric Potier?
Ça, ce côté un peu estival. C'est vrai qu'il y a pas mal de sourires qui se dessinent sur les visages. Il y a évidemment Nicolas Beuys qui joue le rôle du bourgmestre avec le jour où j'étais voir le spectacle avec Vincent Paget et Stéphanie Copé. Mais il y a une alternance avec Sébastien Hébran ou Pierre Pousset, entre autres. On a un musicien, Élie Bellevaux, qui va, avec sa guitare, nous emmener en vadrouille et qui aura un rôle assez important parce que on sait que Bruno Bellevaux est très attaché à cette réflexion sur ce que veut dire la culture. Et en opposant celui qui rêve d'un musée d'art contemporain et puis quelqu'un d'autre qui est plus attaché à l'éducation permanente, aux plus petites choses, etc., il nous amène quelque part dans une sorte de réflexion. Attention, on n'est pas dans de l'intellectuel, mais en fil conducteur, on a quand même cette réflexion autour de ce que ça veut dire une capitale culturelle et de ce que ça veut dire la culture.
C'est le personnage qui joue le chanteur de rue qui, à mon avis, synthétise ça, parce qu'il est on est tout le temps dans le questionnement, est-ce qu'on ne peut faire de la musique? Est-ce que la musique n'a du sens que dans la création? Ou est-ce que chanter un beau morceau de Dean Martin, comme il le chante, ou un morceau de Leonard Cohen, c'est aussi de la culture? Et il pose sans arrêt la question du oui, mais est-ce que pour la capitale culturelle 2030, on pourra faire des karaokés? Et quand le bourgmestre passe devant chaque terrasse, il y a le patron qui dit, ah, ici on va faire des karaokés, est-ce que je pourrais avoir une petite extension de terrasse? Et là, on a bien rigolé avec le bourgmestre Maxime Préau, parce que en fait, c'est lui qui m'a donné l'idée à la première conférence de presse. Il a dit, attention, on ne va pas demander des millions à l'Europe pour faire un karaoké de 365 jours. Et là, en disant ça, il énonçait le clivage entre la grande culture et la petite culture. Moi, j'adore la grande culture et j'adore aussi les petites cultures.
Ah, finalement, la culture, c'est ce qu'on en fait.
Ben voilà, c'est ce qu'on en fait. Et c'est le fil conducteur. Mais avant tout, c'est une balade agréable. Hein. Voilà, une visite guidée de la ville de Namur, je vous l'ai dit, avec des recoins qu'on connaît peu. Ça marche, évidemment. Ça cartonne comme chaque année. C'est full, full, full. Ils ont dû ajouter 3 dates. Et c'est vrai que voilà, c'est un chouette spectacle d'été. On peut y aller en famille. Il ne faut pas s'attendre non plus. Ça a les défauts de ses qualités. Voilà, ça a les défauts de ses qualités. S'il y a des interactions entre les comédiens et les passants, par exemple, ça peut devenir extrêmement drôle. Si ce jour-là, il y a moins de passants, il y a moins d'interactions, mais ça reste une visite guidée. Donc voilà, c'est à prendre pour ce que c'est. Et ça s'appelle une visite si capitale. C'est jusqu'au 4 juillet, mais ils ont ajouté des dates. Donc il faut vérifier sur le site de la Nef à Namur, qui est cette ancienne église désacralisée qui est transformée en centre culturel.
Merci Cédric Wauthier. On vous conseille donc d'essayer d'aller vous y glisser parce qu'à mon avis, ces dates supplémentaires vont très très vite se remplir. On continue la balade et on pousse un peu plus loin jusqu'à la Cité des Papes.
La première, kiosque.
C'est comme ça depuis 1947. Chaque été, en juillet, la ville d'Avignon se métamorphose en capitale mondiale du théâtre. Le festival attire chaque année des milliers de spectateurs passionnés et des artistes venus du monde entier. Des chiffres qui donnent le vertige, hein. Environ 125 000 billets distribués pour des spectacles payants, plus de 30 000 entrées libres pour tout ce qui y va autour, les débats, les rencontres, les lectures. Et tout ça, c'est juste dans le festival IN. Ça ne compte même pas les près de 200 000 places vendues pendant le OFF, le festival dit officieux, mais finalement tout aussi important que ce IN. Bref, dans cette grande messe des arts vivants, une seule question. What is the fish? Eh bien, peut-être bien qu'elle est au Théâtre des Dons. Bonjour Sandrine Bergaud.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes comédienne, metteuse en scène et depuis le 1er septembre dernier, directrice du Théâtre des Dons, un lieu qui est situé donc au cœur d'Avignon et qui porte depuis plus de 20 ans la voix de la scène belge francophone pendant le festival, mais aussi le reste de l'année. Donc c'est un lieu physique, c'est un vrai théâtre avec une vraie scène, mais c'est aussi tout un symbole. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce théâtre, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est quoi son identité? C'est quoi ce lieu? Pourquoi il faut y venir?
Le Théâtre des Dons, c'est un théâtre donc, qui appartient à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mmh. Les bâtiments appartiennent et la subvention est aussi celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, il a pour mission de valoriser, de mettre à la diffusion des spectacles, des créations de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Donc, on peut vraiment parler de vitrine du théâtre belge.
C'est une petite enclave belge au milieu d'Avignon, oui.
Alors, historiquement, c'est vraiment né de la volonté de donner plus de visibilité à ces artistes de Belgique francophone en France. Qu'est-ce que ça change pour les compagnies belges qu'un tel lieu existe et pourquoi c'est toujours nécessaire aujourd'hui, 20 ans après ?
Alors c'est nécessaire parce que le Festival d'Avignon, ça reste le tremplin quand on fait du théâtre ou même plus généralement des arts vivants. Et ici, le Théâtre des Dons, c'est précieux puisque c'est un luxe, puisque les artistes qui sont sélectionnés au Théâtre des Dons reçoivent une petite participation aux frais pour venir jouer, contrairement à tous les autres artistes qui vont devoir payer tout de A à Z. Ouais. Ici, au Théâtre des Dons, ils sont accueillis. C'est nous qui nous occupons de la promotion. C'est nous qui nous occupons de la technique. Enfin, voilà, ils sont choyés.
Mais pourquoi c'est encore un tremplin aujourd'hui, alors qu'on l'a dit, il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines de spectacles aujourd'hui? Et malgré tout, on entend toujours qu'Avignon est un tremplin.
Mais oui, j'en suis moi-même étonnée.
Non, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, donc dans ma vie intérieure où j'étais comédienne et co-créatrice, on s'était posé la question, donc avec le collectif mensuel, de est-ce que c'était encore intéressant de jouer un spectacle à Avignon. Et oui. Alors par contre, c'est une aventure périlleuse, coûteuse. Mais oui, on y était allé donc il y a 2 ans avec Blockbuster et ça a donné lieu à une soixantaine de dates de diffusion. Donc c'est précieux. C'est précieux.
Il y a un vrai différentiel en fait. Il faut en être, ou en tout cas, ça a du sens de tenter parce que c'est vrai, vous le disiez, ça a un coût. Les places sont très chères forcément parce que la demande est très très forte. Voilà, on vous renvoie au merveilleux documentaire de notre collègue Régine Dubois qui a suivi une comédienne qui tentait à Avignon en solo en tant que comédienne stand-upeuse. On voit le parcours du combattant, de la combattante que ça peut être. Les places sont chères sur les scènes pour se loger, pour amener toute sa création là-bas. Néanmoins, c'est un pari qui vaut encore la peine d'être fait aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de programmateurs, programmatrices français et étrangers qui vont à Avignon et qui font leur marché. Alors le mot est pas très joli, mais oui, qui font leur marché à Avignon. Oui, il y en a encore beaucoup. Maintenant, si j'avais un conseil à donner, c'est que oui, je crois que ça vaut la peine d'aller à Avignon, mais il faut y aller préparer et financièrement et pratiquement et dans sa tête. C'est compliqué, oui.
Vous parlez de marché, ça a été aussi votre cas. Vous avez fait vous aussi le marché en allant regarder ce qui s'est produit cette année-ci, ce qui se produira l'année prochaine. Ça doit être extrêmement compliqué de devoir choisir parmi des dizaines et des dizaines de spectacles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On se donne quoi? Un fil conducteur, une idée, une envie, un angle quand on est programmatrice?
Alors oui, effectivement, c'est une torture. non, c'est une torture, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était une première pour moi. Donc oui, il y a quand même plus de 170 spectacles qui ont candidaté, parce qu'il faut le préciser. Donc le Théâtre des Dons a cette particularité, c'est que la sélection se fait sur candidature. Donc ce n'est pas moi qui vais chercher à tout hasard des spectacles. Je reçois les candidatures et puis je suis accompagnée, heureusement, d'un comité de sélection qui m'aide dans cette démarche et on va voir le plus possible de spectacles. Donc plus de 170 cette année. Après, la mission pour le Théâtre des Dons, c'est d'être représentatif de la création belge francophone, ou lourde mission, dans tout ce cas-là, de plus diversifier. Donc déjà, il y a un cadre, ça veut dire que le Théâtre des Dons doit représenter le plus de disciplines possibles. Donc il doit y avoir à minima au moins un spectacle de cirque rue, au moins un spectacle de danse, au moins un spectacle jeune public. Donc voilà, ça cadre déjà beaucoup.
Ça suppose des arbitrages douloureux, on imagine?
Oui, le budget ne permet que d'accueillir que 8 à 9 spectacles. Ça va être radical comme choix. Après, j'ai essayé aussi d'être diversifiée dans les types de créateurs, créatrices. Il y a à la fois des créateurs et créatrices plus confirmés, et puis des tout jeunes dont c'est le premier spectacle. Ça m'intéressait de faire attention à ça. Il y a aussi des spectacles qui sont très récents, qui viennent d'être créés, des spectacles qui sont un peu plus anciens. Ça aussi, j'avais envie de créer un équilibre avec ça. Puis non, je ne me suis pas donné de fil conducteur. Après, oui, forcément, ma subjectivité joue. Moi, j'aime bien les spectacles audacieux. Ça, je crois que c'est une marque de fabrique belge, donc c'est important. Audacieux dans la forme, dans le fond. J'aime bien les spectacles qui osent se saisir de thématiques actuelles. Ça m'importe, moi. Mais en même temps, j'aime bien aussi que ça reste des spectacles accessibles.
Mmh. Avec des écritures souvent ou collectives, ou en tout cas des écritures de plateau assez fortes. On a l'impression que c'est aussi ce qui se dégage de la sélection. Il y a 9 spectacles donc, qui ont été sélectionnés. On peut peut-être la parcourir, cette programmation, parce que c'est vrai qu'il y a des spectacles qui ont déjà tourné cette saison, la saison précédente, dont on a pas mal parlé. D'autres qui sont des formes émergentes, toutes fraîches, qui suscitent beaucoup de curiosité. Et puis, il y a des retours de spectacles qui ont fait date et qu'on avait peut-être un peu oublié parce qu'ils n'avaient pas tourné depuis un moment. Je vous laisse nous guider dans cette programmation.
Oui, je peux déjà peut-être avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 2 lieux à l'intérieur du Théâtre des Dons. Il y a la scène de théâtre et puis alors il y a une scène au jardin, en extérieur, qui a toujours existé mais qui a été aménagée depuis le Covid par mon prédécesseur. Et la petite différence ici qui se fait, c'est que Alain Cofino-Gomez, donc, qui était avant moi à la direction, il faisait ce qu'il appelait des gardens, donc qui étaient des petites formes expérimentale, j'ai envie de dire, ou des étapes de travail. Moi, ici, j'ai pris une autre option et j'ai choisi de présenter donc des vrais spectacles finis, mais qui ont la particularité de pouvoir se jouer presque partout. Mmh. Donc ici, ils se joueront sur cette scène aménagée du jardin, mais c'est des spectacles qui pourraient se jouer en rue ou dans une salle polyvalente, dans une cour de récréation.
Donc des scénographies particulièrement agiles.
C'est-à-dire, oui, des spectacles qui ont été d'emblée pensés par leurs créateurs et créatrices pour pouvoir être nomades, aller à la rencontre du public. C'est ça qui m'intéressait, et c'est cette étiquette-là que j'avais envie de mettre en plus. Oui, des spectacles qui ont cette démarche particulière. Mmh. Pour les citer, donc il y a au jardin, on va commencer par le jardin, on commencera par la journée par Drache National, qui est un spectacle de rue, jonglerie, qui a déjà pas mal tourné, effectivement, mais pas assez encore, et pas assez en tout cas en France. Donc c'est vraiment une opportunité ici pour eux d'aller à la rencontre du réseau français. C'est la compagnie Anora, que je crois qu'ils sont assez connus quand même, oui, ici en Belgique. C'est un spectacle, je trouve, à la fois très drôle et extrêmement touchant.
Qui avait d'ailleurs eu un prix pour meilleure création de cirque. Je pense que c'était en 2024.
Tout à fait.
Ils ont reçu le prix Materlinck. Donc c'est déjà un spectacle qui avait attiré l'attention. Pourquoi la compagnie Anorak, par exemple, est un bon élément représentatif de ce qu'est le cirque contemporain en Belgique aujourd'hui, par exemple? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce spectacle en particulier?
Ce qui m'a séduit, c'est qu'à la fois, donc, ça allie de la performance, il n'y a rien à faire. Hein, un spectacle de cirque, on a un petit peu envie d'être un peu étonné. Donc ici, c'est la jonglerie, leur discipline. Mais il y a vraiment toute une dramaturgie, j'ose le mot, dramaturgie derrière, avec des personnages très clownesques comme ça. Et oui, j'ai trouvé ça à la fois drôle et émouvant. J'avoue que moi, j'ai ri et pleuré en tant que spectatrice. Alors, je suis peut-être un petit peu l'âme sensible, mais...
C'est bien.
Non, je trouve ça un spectacle, oui, très touchant.
Il y a des formes jeunes publics aussi qui sont très engagées. Je pense notamment à Fast de l'Inti Théâtre, qui aborde un sujet pas évident à aborder dans une petite forme jeune public au théâtre, qui est la fast fashion, avec un travail documentaire assez bluffant d'ailleurs, mais qui a la particularité de rester très ludique et très digeste.
Et absolument pas moralisateur, ce qui pourrait être le travers de cette thématique... Oui, moi j'ai eu la chance de le voir avec 2 classes d'adolescents. Donc ils aiment dire qu'ils sont un tout public à partir de 13 ans. Effectivement, ça marche très très bien avec les adolescents qui ont tout de suite été captivés et qui sont complètement rentrés dedans. Comme vous venez de le dire, c'est à la fois drôle, ludique, ça se prend pas au sérieux et en même temps, effectivement, c'est très documenté. Et j'aime beaucoup le sous-titre, hein, on le dit pas assez souvent. Donc le sous-titre de Fast, c'est « Où peut-on se réapproprier nos désirs dans une société de consommation ?» C'est vraiment ce qui sous-tend le spectacle. C'est très malin.
Ouais. avec une forme, on le disait, assez ludique, entre le jeu télé et le défilé de mode. Oui. On imagine que, je ne sais pas sur laquelle des deux scènes le spectacle va se jouer.
Alors, ce sera étonnant pour les habitués du Théâtre des Dons, parce que ce sera dans la salle, mais donc ce sera en bifrontal. Ouais. Donc, il y a un deuxième gradin qui sera monté en face de notre gradin, juste pour ce spectacle-là.
Mmh. Alors, autre spectacle qu'on peut citer aussi, c'est évidemment La Sœur de Jésus-Christ, oui. Qui a énormément tourné de la compagnie Belle de Nuit, qui a retenu énormément l'attention sur un superbe texte d'Oscar de Souma qui a été retraduit et adapté sur une mise en scène de Georges Ligny. C'était le spectacle incontournable à avoir à la vitrine des dons cet été ?
Sur ce coup-là, je trouve qu'ils sont tous incontournables. Je les défends tous.
Évidemment.
Oui, mais de nouveau, j'ai été très séduite. Et puis, j'aime beaucoup le théâtre de poche. Et ça, j'étais très heureuse. Alors, j'aurais pas pris n'importe quel spectacle pour la cause. Mais je suis très contente, effectivement, d'avoir ce partenariat avec le théâtre de poche sur cette édition, sur ma première édition. Puis oui, c'est un spectacle magnifique, porté par ce comédien incroyable.
Félix Van Rundberg.
Il est vraiment incroyable. Alors, ce qu'il faut noter sur... ils ont fait donc une adaptation particulière, puisque pour qui a vu le spectacle, ils ont reçu un prix d'ailleurs pour leur scénographie. C'est une scénographie assez imposante. Donc, le spectacle à l'avenir tournera avec ces deux formes. Pour les salles qui peuvent se le permettre, une forme de ce décor incroyable qui monte et qui descend des cintres. Et puis alors, pour le Théâtre des Dons et les plus petites salles, il y aura une... Voilà, je laisserai la surprise aux spectateurs, mais donc une adaptation scénographique. Mmh.
Qu'est-ce qui ressort, selon vous, des 170 spectacles que vous avez vus pour cette sélection ? Est-ce qu'il y a une thématique, un angle, là aussi, ou quelque chose qui est dans l'air du temps, que vous avez perçu ?
Alors d'abord, j'ai été vraiment... Donc c'est la première fois que je voyais autant de spectacles. J'ai été d'abord bluffée de la qualité des spectacles, vraiment. Il y a vraiment une qualité dans le théâtre belge francophone, dans les spectacles belges francophones, puisque c'est plusieurs disciplines. On peut vraiment être fier. Donc ça tombe bien, puisque c'est mon nouveau métier de défendre ça. Mais oui, vraiment, il y a une grande qualité. Et puis, dans les thématiques... je ne vais pas réussir à toutes les citer, mais il y a beaucoup de thématiques... on sent une jeune génération qui est très concernée par l'époque dans laquelle on vit et qui le porte sur le plateau.
Par les enjeux.
Ici, moi, j'ai été extrêmement séduite par Ouverture des hostilités, qui est le premier spectacle de Marie Devroux, qui a été créé ici en novembre dernier, donc qui a été un spectacle qui, pour l'instant, a été très peu vu, et qui est un spectacle extrêmement engagé, mais en même temps, une fois de plus, elle arrive à porter des questions extrêmement politiques et fondamentales, mais de manière ludique et drôle, une fois de plus.
Il n'y a peut-être pas de thématique manifeste qui se dégage. Par contre, moi, j'ai le sentiment que les paroles de femmes sont très présentes. Malgré le fait qu'on l'a entendu, il y a eu une attention très particulière à la diversité, tant des thèmes que des disciplines, que des publics. Quand on balaye un peu ces neuf programmes, qu'on parle d'Ouverture des hostilités de Marie Devroux, de Yasmine Yayaten dans La Fracture, de La Sœur de Jésus, qui parle des violences faites aux femmes, ou encore de Annette, merveilleux récit de vie, avec cette formidable Annette de Clémentine Colpin et de Canicule. Il y a ces paroles de femmes qui émergent. Alors on le sait, c'est un phénomène qui, je pense, traverse toutes les disciplines. Et je voulais m'arrêter peut-être aussi sur un spectacle qui faisait aussi, à mon avis, partie des coups de cœur émergents. C'est Masha Siokos avec Bête d'orage, dont on a un petit extrait.
Être et prendre place, occuper la place, prendre toute la place. Ne pas écraser, ne pas s'écraser, être. S'habiter soi, pas juste décorer, s'habiter soi, m'habiter moi, moi. Moi j'ai pas de bite, donc puissance 1000 je dois lutter. Si t'es dubitatif, c'est que je tape dans le mille. T'as capté ?
Voilà, Prijo Dekmin, Bête d'orage, un spectacle d'une femme qui dit, qui rappe et qui twerk. Il y aura une représentation unique, donc ce sera le jeudi 10 juillet.
Tout à fait.
Pourquoi ce spectacle est particulier dans cette programmation ?
J'ai été extrêmement séduite par Masha Siokos et par ce spectacle. Et voilà, c'était ce délicat choix a fait que c'était difficile de la mettre dans la sélection, parce que voilà, il a fallu faire des choix, c'est affreux. Mais par contre, je trouvais qu'elle correspondait tout à fait à ce Prijo Dekmin qui valorise une écriture singulière, une personnalité en devenir, parce qu'elle est très jeune et c'est son premier spectacle. Oui, à suivre, vraiment, Masha Siokos, à suivre.
Tous ces spectacles vont tourner donc au Théâtre des Dons cet été dans le cadre du Festival Off. On espère les revoir dans les saisons prochaines en France tant qu'en Belgique. C'est donc votre première programmation en tant que directrice à la tête du Théâtre des Dons. C'est quoi la suite dans vos rêves pour ce Théâtre des Dons ?
Bah, je sais pas.
Bah, qu'est-ce qu'on vous souhaite alors, à minima?
Non, mais je souhaite de continuer, de pouvoir bien prendre mon rôle. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être encore complètement décoiffée, déboussolée. Donc, c'est prendre mes marques. Et puis, j'avoue que j'ai des désirs de grandir, d'essayer de pousser les murs, d'essayer de rajouter des spectacles. 9 spectacles, c'est trop affreux à choisir. Donc, essayer d'en rajouter un peu plus, de faire des collaborations. Ma candidature tournait vraiment autour de ça, des collaborations et avec d'autres lieux à Avignon. C'est en cours. Une première année, c'est trop court pour commencer. Mais,
ça amène quoi, une collaboration avec d'autres lieux à Avignon?
D'abord, je suis profondément convaincue qu'ensemble, on est plus fort. Mmh. Souvent, les collaborations que j'ai commencé à lancer, c'est plutôt pendant l'année, puisque donc, vous le disiez, pendant l'année, le théâtre est ouvert, principalement pour accueillir des artistes en résidence. Mais aussi, il y a d'autres événements et la collaboration avec d'autres lieux avignonnais, ça permet de valoriser nos événements mutuellement. Donc, on est voisins avec un cinéma, une salle de jazz, l'Ajmi. Si tout d'un coup, on fait une soirée combinée ou sur la même thématique, il y a un film et puis un spectacle au Théâtre des Dons et puis un concert après, bah, ça fait une soirée combo qui est tout d'un coup très valorisée et pour le public et pour la presse et pour, voilà, et pour le festival, bah, la collaboration, ça permettrait d'avoir d'autres salles et d'accueillir d'autres artistes et d'autres formes. Voilà ce qu'on pourrait me souhaiter.
C'est lancé à l'univers, en tout cas en attendant cette suite qu'on espère multiple et foisonnante. Allez découvrir cette programmation du Théâtre des Dons sous le signe des rencontres et métamorphose, on n'a pas eu le temps de le citer, et avec aussi mis à l'honneur le travail de l'artiste visuel Petrouche Kaka, parce qu'il faut le citer aussi, il n'y a pas que les arts scéniques stricto sensu qui sont mis à l'honneur, qui sont valorisés, il y a aussi tous les arts visuels et connexes qui touchent aux arts de la scène. Il y a donc aussi un pop-up expo très très coloré à aller découvrir. Toute la programmation est à retrouver sur www.lesdons.eu. Merci Sandrine Bergot.
Merci.
Bon festival.
Merci.
La première, kiosque.
Le choix du kiosque, on vous donne nos recommandations pour passer une bonne semaine au théâtre et légèrement en dehors aussi d'ailleurs. D'ailleurs avec vous Cédric Wautier, on retourne à l'école.
Oui, on va retourner à l'école. C'est vrai que j'avais envie de mettre en avant les jeunes, la jeune génération qui n'est pas encore diplômée, qui sera, on l'espère, diplômée cette année avec l'exercice public de fin de master en interprétation dramatique, c'est le titre officiel de l'IAD. Et le spectacle qui se joue, dépêchez-vous, jusqu'au 24 juin, ça s'appelle Les Enivrés. Je vous lis juste le pitch parce que je l'adore. L'amour pour les spiritueux, c'est le même amour que l'amour d'une mère pour son fils. Le même que l'amour d'un moine pour le Seigneur, c'est toujours ce même amour. Aimer les petits pains au grain de pavot, c'est la même chose que d'aimer son prochain. L'amour pour le sucré, c'est cette même chose que l'amour pour Dieu. Aimer la viande grillée et aimer Jésus, c'est une seule et même chose. L'essentiel, c'est d'aimer. Pour reprendre les paroles d'un autre grand philosophe de notre temps. C'est un spectacle signé Ivan Viripaev. Et c'est vrai qu'on va retrouver tous les étudiants qui terminent leur cursus. C'est toujours touchant, moi, je trouve, de les voir un petit peu en bande, parce qu'il y a vraiment souvent cet esprit de bande. C'est un spectacle assez décalé, où on va comprendre que l'amour peut prendre pas mal de formes. Je ne l'ai pas vu, évidemment.
Mais non,
c'est un exercice à découvrir. Il faut bien avoir en tête que c'est un exercice, mais c'est souvent très, très chouette.
C'est donc à voir jusqu'au
24 juin, toutes les informations sur le théâtre Jean Villard, ce sera le plus simple.
Voilà, merci Cédric. Et moi je vous emmène du côté de Tournai, à la recherche de Molière. Jean-Baptiste Poquelin, qui partait avec sa troupe en 1645 hors de Paris pour sillonner les routes et devenir une star. 374 ans plus tard précisément, une autre troupe, les Estivants, emmenée par Johanna Jacardi, embarque dans une caravane et part jouer dans les campings. De là, un parallèle évident, une étincelle qui jaillit et une idée qui s'enflamme, raconter la vie de Jean-Baptiste Poquelin, tout en la reliant à leur propre histoire. Alors ne vous attendez absolument pas à un spectacle historique, ça s'appelle La saga de Molière, mais c'est l'histoire de Molière comme vous ne l'avez jamais vu ou entendu auparavant. C'est drôle, c'est plein de fantaisie, et la troupe composée de 5 comédiens, comédiennes assez géniaux, rejoue donc librement des morceaux de la vie de ce monstre sacré qui était Molière. Donc c'est La saga version moderne, c'est à voir pour une unique date, le 24 juin aussi, il faudra choisir, et ça se passe à la Maison de la Culture de Tournai.
C'est donc du Molière en slip de bain slash et pastis à la main.
C'est ça que demande le peuple.
Ça va être bien.
C'est la fin de cet épisode de Kiosque. Merci à nos invités, Christine Delmotte-Weber, Sandrine Bergo, à qui on souhaite un bon festival et un bel été sur les routes. Merci à vous, Cédric Coutier.
Mais ce fut un bonheur. Quelle est la plus belle ville du monde?
Je ne vais pas avoir la même réponse que vous, donc je vous laisse endosser cette responsabilité. Allez, bel été à vous aussi. On vous retrouve fin août pour plonger dans la nouvelle saison. La semaine prochaine, dernier épisode de Kiosque. Nous irons du côté de Villers-la-Ville voir la nouvelle création La Belle et la Bête qui est en train de monter ses tréteaux entre les ruines. Et nous irons également découvrir le festival Au Carré dans les rues de Mons. D'ici là, portez-vous bien, ouvrez l'œil et le bon, sortez de chez vous, soutenez les artistes. À bientôt.